Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin, pour que nous puissions nous réunir autour de lui et avec lui. Et nous lui demandons qu'il puisse nous conduire. Il a déjà commencé à nous conduire et nous lui demandons encore de continuer à nous conduire pendant ce moment. Nous avons parlé dans nos prières, dans nos lectures, dans nos chants, on parle beaucoup. Il y avait beaucoup de souffrance, maladie, douleur. Et ce matin, nous voulons méditer aussi sur un homme qui était dans la souffrance. Un homme qui était dans la détresse. Et cet homme a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui a pas répondu. C'est pour cela que je vous invite d'ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 88. Nous allons lire tous les psaumes, 88 du 1er jusqu'au 19, parce que c'est difficile de diviser cela, de lire seulement une seule partie, donc nous allons le lire en entier. Psaume 88. Lisons la parole de Dieu. Le psaume 88. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres pour chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, les Zrachites. L'Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée des maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués, couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse et je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est avec confiance et assurance que nous voulons nous placer à tes pieds pour t'écouter. Nous savons que tu es un Dieu, un Père qui parle à ses enfants. Parle maintenant, notre Seigneur, car ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, quand j'ai médité sur ces psaumes, je me retrouvais quelquefois dans ces paroles, dans ces sentiments, dans ces impressions. Et ce psaume est un cri de quelqu'un qui traverse une période très, très difficile. Et se demande pourquoi. Pourquoi? Il a l'impression d'être rejeté. Il a l'impression d'être abandonné de tous. Il a l'impression, même Dieu est complètement absent. Est complètement absent. On a lu tout à l'heure, on a chanté tout à l'heure ce cantique, quel ami fidèle et tendre. À cette époque, ce cantique n'existait pas. Parce que s'il existait qu'il chantait ce cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Mais en lisant ce cantique du début jusqu'à la fin, Dieu ne l'a pas répondu. Dieu ne l'a pas répondu. Mais ce cantique, frères et sœurs, c'est une prière qu'il adresse à l'Éternel. Ce psaume est un psaume de tristesse qui commence par la détresse, puis la tristesse augmente au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Au fur et à mesure, la tristesse augmente. Oui, mais ce psaume nous enseigne aussi quelque chose, frères et sœurs. Il nous enseigne que la manière dont nous réagissons au désespoir, la manière dont nous réagissons à nos souffrances dépend de notre vision de Dieu. Qui est-il pour nous? Qui est Dieu pour nous? Notre méditation, frères et sœurs, sera axée sur trois points. Le premier point, l'expression de sa souffrance. Il exprime sa souffrance, l'expression de sa souffrance. Le deuxième point, sa prière sincère à Dieu. Il est sincère à Dieu dans sa prière, il ne cache rien. Et le troisième point, sa foi et sa persévérance. Sa foi et sa persévérance. Alors, l'expression de sa souffrance. Oui, il exprime, cette personne exprime, ou cet homme exprime les sentiments que nous pouvons parfois ressentir, nous, aujourd'hui, lorsque nous sommes dans la détresse. Je pense que personne ne dira le contraire. Pas tous les sentiments, mais quelques sentiments. Chacun peut-être pourra se retrouver. Verset après verset, il n'y a que du chagrin, des plaintes, des questions, des doutes. Et le récit de ces difficultés qu'il raconte est vraiment impressionnant. Dans son récit, cet homme, il montre la gravité de sa souffrance. Il montre la gravité de son désespoir. Il montre comment, en utilisant les images, il parle de ces jours des morts, au verset 4, il parle de fosses profondes, verset 5, il parle des morts, des tués, des sépulcres, au verset 6. Ce n'est pas joyeux d'entendre tout cela. Il parle des ténèbres, des abîmes. Donc, tout cela pour décrire sa souffrance. Où il est arrivé avec ce qu'il est en train de connaître. Et comment il voit sa vie? Il pense qu'il n'a pas d'avenir, c'est fini. Qu'il n'a pas d'avenir. Il dit que sa vie est ainsi depuis sa jeunesse. Il ne voit pas la fin de ses souffrances. Il pense qu'il est condamné à lutter jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il pense. Il a cette impression-là. Et il dit même que son âme est saturée de malheur. Et sa vie s'approche du séjour des morts. Son âme, les Français disent, j'en ai jusque là. J'en ai jusque là. Donc, ma vie s'approche du séjour des morts. Il a l'impression d'avoir tellement de problèmes qu'il va mourir et oublier Dieu. Et il va même plus loin, il dit que tellement il a pleuré, ses yeux sont usés par la souffrance. Vous savez, quand quelqu'un a beaucoup pleuré, vous voyez comment les yeux deviennent. Tout petit, rouge, tellement il a pleuré, il dit, mes yeux sont usés par la souffrance. Il semble être enterré vivant, avec l'impression déjà mort, on m'enterre vivant. Il se sent seul, abandonné par ses amis. Et dans tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reste silencieux. Dieu ne parle pas. Dieu ne répond pas. Il dit au verset 14, « Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face ?» Pourquoi me caches-tu ta face? Il a le cœur brisé. Il ne comprend pas pourquoi. Il y a un frère qui disait, il ne comprend pas le pourquoi du comment. Il ne comprend pas pourquoi. Mais, frères et sœurs, le réconfort ne viendra que de l'Éternel. Le réconfort ne viendra que de l'Éternel. Quand des difficultés surviennent dans nos vies, nous avons l'impression que tout s'écroule. Tout s'écroule. Ces problèmes arrivent les uns après les autres. Entre parenthèses, au pays, il y a mon vieux pasteur à l'époque qui disait, quand ces problèmes arrivent, ils appellent leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, leurs frères, ils viennent tous au même moment, les uns après les autres. Après, tu ne vois plus le bout du tunnel. Mais la Bible dit dans Psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont le cœur est abattu. Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas dans ce psaume. Cela ne voudrait pas dire que Dieu ne se soucie pas de cet homme. Ça ne voudrait pas dire ça. Cela signifie tout simplement que Dieu a choisi de ne pas répondre. Dieu a choisi de ne pas répondre. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Dieu n'a répondu à aucune question de Job dans son malheur. Dieu n'a répondu à aucune question de Job. Dieu n'a répondu à Job qu'à la fin. À la fin. Et si vous prenez le livre de Job, vous verrez que Dieu lui a répondu qu'à la fin du livre, le dernier chapitre. Le dernier chapitre, le chapitre 42, 1 à 17. C'est là où Dieu a répondu à Job. Mais du chapitre 1 jusqu'au chapitre 46, Dieu n'a pas répondu à Job. Vous savez, le désespoir peut nous empêcher de faire certaines choses, mais il peut aussi nous donner l'impression que Dieu est contre nous. Ça peut nous donner cette impression-là, que Dieu est contre nous, que Dieu ne m'entend pas. Ça peut nous donner cette impression-là. Voyons le verset 7 et le verset 8. Le verset 7, au verset 7 et 8, cet homme désigne Dieu. Il désigne même Dieu comme la source de ses problèmes. Il dit au verset 7, « Dieu m'a rejeté dans une fosse profonde, dans les abîmes qu'il a jeté là-bas. » C'est Dieu. Donc il pointe même Dieu du doigt. Au verset 8, il dit, « Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'accables de vagues de ta colère. » Il désigne même Dieu, il pointe Dieu du doigt. Il a l'impression que tout ce qui lui arrive est dû au fait que Dieu est contre lui. Dieu est contre lui. Vous savez, frères et sœurs, notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de remettre Dieu en question. Non. Nous ne pouvons pas remettre Dieu en question. Nous ne pouvons pas remettre la bonté de Dieu en question. Nous ne pouvons pas remettre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu en question. Mais notre devoir, frères et sœurs, c'est de nous conformer à la volonté de Dieu. C'est ça notre devoir. C'est de nous conformer à la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Et non remettre Dieu en question. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Peu importe ce que les difficultés de la vie semblent être à nos esprits, troublés, mais ces difficultés que nous voyons lourdes, extrêmes, ne sont jamais pareilles pour Dieu. La façon dont nous considérons ces souffrances, c'est pas pareil pour Dieu. Elles peuvent être lourdes pour nous, mais devant Dieu, c'est léger. C'est léger. Nous pouvons avoir le sentiment d'être abandonné par Dieu et avoir l'impression que la colère de Dieu est sur nous. En réalité, ce n'est pas ça. Je me rappelle, une fois, j'étais parti rendre visite à un ami à l'hôpital et son voisin qui était à côté qui souffrait tellement. Je vais même demander de prier avec lui. Parce que quand je suis rentré dans la chambre, tellement qu'il souffrait, j'ai entendu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et certains d'entre nous aussi, peut-être, ont déjà dit cette phrase tellement que on est dans le désespoir. Mon Dieu, m'entends-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, la seule personne à pouvoir dire cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a vécu cela sur la croix à Golgotha. La Bible dit, et on l'a chanté tout à l'heure, et il y a un frère qui a lu un passage qui disait que il a été rejeté par tous. Et en lisant la Bible, il est dit que son âme, lui-même Jésus-Christ a déclaré que mon âme est triste jusqu'à la mort. Abandonné de tous, il était complètement seul sur la croix. Seul sur la croix. Et cet homme, dans ce psaume, il dit qu'il est abandonné, qu'il est complètement seul. Il n'a plus d'amis. Mais c'est Christ qui pouvait dire cela. Parce que Christ a souffert en acceptant la colère de Dieu sur lui. Dans ce psaume, cet homme dit que la colère de Dieu est sur moi. Non, c'est Christ qui pouvait dire cela. Jésus-Christ qui pouvait dire cela. Sur la croix, Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, lui a vécu cela vraiment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand Christ a crié cela sur la croix, Dieu n'a pas répondu à Jésus-Christ sur la croix. Dieu aussi était silencieux. Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas de réponse de Dieu. Dieu était resté silencieux. Vous savez, il est resté silencieux, c'est vrai, mais ce que Dieu a fait par son silence en jugeant le péché à Golgotha, c'est la plus grande œuvre de Dieu. C'est la plus grande œuvre de Dieu. Il est resté silencieux à Golgotha quand Jésus a crié. Il n'a pas répondu à Jésus-Christ, mais ce qu'il a fait était plus grand que toute chose. Son œuvre sur la croix. Il a accompli son œuvre sur la croix. C'est pour cela, frères et sœurs, des fois quand nous disons certaines choses, nous prenons un verset biblique, c'est vrai, mais sachant que les plus grandes œuvres de Dieu s'accomplissent souvent en silence. Les plus grandes œuvres de Dieu s'accomplissent souvent en silence. Le désespoir, les difficultés que nous endurons dans cette vie ne devraient pas remettre en question, comme on l'a dit, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. Nous savons que Dieu est fidèle et qu'il fait preuve d'un amour infini envers ses enfants. Nous savons que Dieu ne nous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. Retenons cela, frères et sœurs. Et cet homme, dans ses psaumes, il a crié à Dieu, mais Dieu est resté silencieux. Ça ne voudrait pas dire que Dieu était incapable ou n'entendait rien du tout. Non, en restant silencieux, Dieu sait, Dieu savait. Dieu sait, Dieu savait et Dieu agit en silence. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est sa prière sincère à Dieu. Parce que ce psaume, c'est une prière. Un cri de détresse, c'est vrai, mais c'est une prière. Et le titre de notre message ce matin, c'est pour ça que j'ai intitulé ce message, la prière du fond de la détresse. J'ai intitulé ce message, la prière du fond de la détresse. Donc, sa prière sincère, sincère à Dieu. Malgré toutes ses problèmes, toutes ses souffrances, tous ses problèmes, il n'arrête pas de prier Dieu. C'est merveilleux. Il n'arrête pas de prier Dieu. Il adresse sa prière à Dieu et à Dieu seul. Il invoque le Dieu qui entend et qui répond. Il n'adresse pas sa prière à n'importe qui, non. Il adresse sa prière à Dieu qui entend et qui répond. Comme il est écrit dans sa parole, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. Au verset 2, cet homme dit dans sa prière, « Que ma prière parvienne jusqu'à toi. » Prête l'oreille à mes supplications. Prête l'oreille à mes supplications. Il est sincère dans sa prière. Il ne cache pas ce qu'il ressent. Il est sincère dans sa prière. Il dit tout à Dieu. Ses impressions, ce qu'il ressent, ses sentiments. Il ne cache rien. Il dit tout à son Dieu. Oui, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce n'est pas la peine de cacher des choses au Seigneur. Bon, de toute la façon, il le sait d'avance, mais c'est mieux de lui dire. Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent, avec quoi? Avec sincérité. Ne cache rien à ton Dieu. Ne cache rien à ton Dieu. Et cet homme n'a rien caché. Oui, c'est vraiment réconfortant de savoir que Dieu nous comprend. Il ne rejette pas et ne méprise pas ceux qui font face au désespoir. Non. Il ne rejette personne, il ne méprise personne. Oui, par la prière, Dieu permet que nous puissions lui parler avec confiance. Au milieu des pires circonstances, il est toujours possible de parler à Dieu, d'avoir une relation avec lui. Cet homme était dans une situation déplorable. Mais il a gardé cette relation avec Dieu. Il continuait à parler avec Dieu. Des fois, certaines personnes disent, « Ah, tellement je suis dépassé par les événements, je n'ai même plus la force de prier. » Non, frère. Non, ma sœur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps dans lequel tu te trouves, quels que soient tes sentiments, tes impressions, maintiens cette relation avec Dieu dans la prière. Et c'est ce que cet homme a fait. C'est ce que cet homme a fait. Au verset 13 et 14, il dit, « Ô Éternel, implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, me repousses-tu? Pourquoi tu repousses mon âme? Pourquoi me caches ta face? » Il répand sa plainte devant Dieu, voire même, non seulement de répandre sa plainte devant Dieu, il interroge même Dieu. Il interroge même Dieu, il dit, « Pourquoi Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi caches-tu? Mais caches-tu ta face? C'est vrai, il ne prie pas avec, disons, des pensées heureuses, je peux dire. Mais il continue à implorer l'Éternel. Il continue à implorer l'Éternel. Il crie à l'Éternel comme David quand il était dans la détresse. David aussi avait prié, il avait crié à l'Éternel quand il était dans la détresse. Et voici comment David a prié dans le psaume 142, versets 1 à 2. Nous allons lire cela rapidement. Psaume 142. David a prié comme ceci. Et le titre même de ce psaume 142, prière dans la détresse. Voici comment David a prié, versets 1 à 2. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Et je fais quoi? Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Voilà, cet homme a prié à peu près comme David. Il a répandu sa détresse devant Dieu. Et frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire quand nous sommes dans des situations, dans des circonstances pareilles que cet homme du psaume 88. Il répand sa plainte devant Dieu. Aujourd'hui, si nous passons par des moments de désespoir ou d'épreuve, il est important, frères et sœurs, nous vous en supplions, d'en parler à Dieu. Ne courons pas voir l'assistante sociale, ne courons pas voir si c'est... Il est important d'abord d'en parler à Dieu. Répands ta plainte devant Dieu, comme cet homme-là. Même s'il ne voyait pas les bouts du tunnel. Mais il a continué à parler avec Dieu. Ce psaume nous encourage à tout rapporter à Dieu. Il n'a rien caché. Il n'a rien caché. Il n'y a pas d'autre Dieu à qui nous pouvons adresser nos prières. Pas d'autre Dieu. Et si nous regardons bien ce psaume, 4 fois dans ce psaume, il a appelé Dieu éternel. 4 fois dans ce psaume, Dieu est appelé éternel, c'est-à-dire Jéhovah. C'est le nom de Dieu. 4 fois, il a appelé Dieu Jéhovah. Au verset 2, nous voyons ça au verset 2, nous voyons cela au verset 10, nous voyons cela éternel au verset 14, et nous voyons encore éternel au verset 15, 4 fois. Et ce mois de février, nous avons eu 4 thèmes d'adoration concernant le nom de Dieu, ce mois de février. Le premier, c'était Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Shalom, l'Éternel paix, notre paix. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière, ou l'Éternel qui lutte, qui combat pour nous. Et ce matin, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Oui, nous pouvons adresser nos prières à aucun autre Dieu que à l'Éternel, à Jéhovah. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jiré. Pourquoi? Parce que l'Éternel est tout suffisant. Il est tout suffisant. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de ces noms, mais nous savons qu'il est suffisant. Alors, répandons nos plaintes à ce Dieu-là, parce qu'il est tout suffisant. Même s'il ne te répond pas tout de suite, il est suffisant, parce qu'il agit en silence, sans le savoir. Enfin, le troisième et le dernier point, nous voyons sa foi et sa persévérance. Avoir des problèmes ou passer par des moments difficiles ne signifie pas un manque de foi. Parce que dans certains milieux, on nous dit, oui, quand tu es tout le temps malade, ou quand tu as tout le temps des problèmes, bon, examine, bon, c'est vrai, tu peux t'examiner, c'est vrai, on s'examine tous les jours. Mais ça ne signifie pas un manque de foi. La foi ne consiste pas à exclure la souffrance dans nos vies, non. La foi ne consiste pas à cela. Mais la foi, frères et sœurs, nous aide à trouver la force pour faire face à toutes les circonstances. La foi n'exclut pas les difficultés dans nos vies, mais plutôt à trouver la force d'y faire face. Et la foi de cet homme est manifestée par le fait qu'il est un homme de prière d'abord. Il est un homme de prière et de persévérance. Comment de persévérance? En priant sans cesse. En priant sans cesse. Il a prié sans relâche, cet homme. Il a prié sans relâche. Au verset 2, il est dit, « Je crie jour et nuit devant toi. » Au verset 10, il dit, « Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. » Le verset 14, il dit, « Et le matin, ma prière s'élève à toi. » Formidable. Bien qu'il était dans des situations un peu difficiles, mais il persévérait dans la prière. Sa prière est marquée par la persévérance. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dans sa prière, nous voyons aussi sa déclaration sur qui est Dieu pour lui. Il déclare qui est Dieu pour lui. Il dit, ou il appelle Dieu, le Dieu de mon salut. Ah, faut avoir la foi pour le dire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le dire. Il dit, il appelle Dieu le Dieu de mon salut. Il prie Dieu, ce Dieu-là, pourquoi? Parce qu'il le considère comme l'Éternel, le Dieu de son salut. Il considère Dieu de cette manière, qu'il est le Dieu de son salut. Oui, nous voyons la confiance en Dieu dans sa prière. C'est qu'il a la foi. C'est pour ça qu'il appelle le Dieu de mon salut. Et il a confiance en ce Dieu. Même si les choses vont mal pour lui, il se souvient de la fidélité de Dieu et reconnaît le pouvoir de Dieu de sauver. Et là, nous voyons sa foi. Malgré sa situation. Oui, frères et sœurs, c'est une belle image de la foi, dans le moment de difficulté. Une belle image de la foi dans des moments, dans des situations très difficiles. Nous lisons dans Hébreux 11, 6, ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et lui, il croit que Dieu existe. Parce qu'il dit, le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Frères et sœurs, tant que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, est réel dans nos vies, un enfant de Dieu peut surmonter n'importe quelle tempête, parce qu'il aura la paix de l'Éternel en lui. Pour finir, frères et sœurs, peu importe à quel point, comme on dit, la mer est agitée, l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Même si Dieu est silencieux et ne répond pas, continuons à fixer nos regards vers lui. Continuons. Parce que si vous lisez le psaume 88 du début jusqu'à la fin, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Dieu reste muet. Dieu reste silencieux. C'est pour cela, même s'il reste silencieux et ne répond pas, ne nous répond pas, frères et sœurs, continuons à fixer nos regards vers lui. Psaume 55, 23, nous lisons ceci. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne restera jamais chanceler le juste. Oui, combien de fois, frères et sœurs, dans nos prières sont timides de fois. Combien de fois nos prières sont timides? Pourquoi? Parce que nous venons à Dieu avec ce que nous ressentons. Nous venons à Dieu avec nos sentiments, nos impressions, et non avec ce que nous connaissons de l'Éternel et de sa parole. Qui est l'Éternel pour nous? Ne viens pas vers l'Éternel avec tes sentiments, tes impressions, tes soi-disant non, frères et sœurs. Non. Viens ou approche-toi de l'Éternel avec ce que tu connais de lui. Il est Jéhovah Jiré, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Rapha. C'est de cette façon-là que tu dois t'approcher de ce Dieu. Parce que quand tu reconnais qu'il est Jéhovah Shalom, c'est lui le Dieu de paix, ça change la donne. Au lieu de s'approcher de lui avec tes impressions, tes sentiments. Oui, si nous venons à Dieu en connaissant ce qu'il est pour nous et prions conformément à sa parole, nous prierons avec confiance et sans cesse, sans relâche. Nous lisons verset 14, « Ô Éternel, je t'implore, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. » Dieu est la seule source d'espérance pour nous. Dans la Bible, on dit, il y a le psaume, je crois, qui dit, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. » Le secours me vient de l'Éternel. Voilà. Donc, Dieu est la seule source d'espérance pour nous. Malgré la souffrance, malgré le désespoir, malgré tout ce que nous pouvons traverser, frères et sœurs, gardons la foi. Cet homme a gardé sa foi. Malgré l'état dans lequel il s'est trouvé, il a gardé sa foi. Continuons à prier et à nous attendre à l'Éternel. C'est la preuve que nous ne sommes pas abandonnés. Franchement, frères et sœurs, que le Dieu dans sa grâce infinie ait compassion de nos faiblesses. Venons pour la gloire de Dieu et vivons même pour la gloire de Dieu et nous réjouir dans son amour, frères et sœurs, son amour infini, quelles que soient les souffrances. Je vais finir seulement par ce passage de 2 Corinthiens 4, une parole de Paul concernant la souffrance, les souffrances présentes. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, et je m'arrêterai là. L'apôtre Paul dit ceci au verset 16 du chapitre 4 de 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, nos légères souffrances du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle, tu nous as parlé. Permets que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et que cette parole puisse porter des fruits. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais même nos sentiments, Seigneur. Mais permets que nous puissions continuer à avoir confiance en toi. Permets que nous puissions continuer à garder notre foi et nous attendre à toi. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen.